pour je vais présenter les trois participants. Noëlle Lenoir est avocate, membre honoraire du Conseil constitutionnel, ancienne ministre, diplômée d'études supérieures de droit public et de l'Institut d'études politiques. Elle a occupé les fonctions de elle a été ministre déléguée aux affaires européennes de 2002 à 2004. Elle a été membre du Conseil constitutionnel de 1992 à 2001. Elle exerce principalement la fonction d'avocat, mais en même temps, je veux dire, elle est membre du Conseil d'État depuis 2009 et avocat associé au sein du cabinet Giantec.
Merci infiniment, Monsieur le Président, cher Jean-Jacques Ayagon. Merci d'avoir organisé ici, dans cette salle tout à fait emblématique de la séparation des pouvoirs, puisque le tiers État s'était légèrement autonomisé des autres pouvoirs, d'avoir organisé cette université des savoirs sur un thème qui est éminemment politique au sens noble du terme. Alors, la République des juges, c'est pas ce que mes deux collègues en penseront. Je trouve que c'est un terme tout à fait inusité, parce que moi j'avais l'habitude d'une expression très franco-française qui est celle du gouvernement des juges. Les juges empiètent évidemment sur le pouvoir politique, puisqu'il y a une légendaire méfiance en France vis-à-vis du pouvoir judiciaire. On parlait plutôt de la République des avocats. Et là, le thème, c'est la République des juges. Alors, je me suis interrogée sur la portée de cet intitulé. Soit on peut ramener cet intitulé au problème récurrent, comme je l'indiquais, des politiques qui pensent que les juges ont toujours la volonté, plus ou moins camouflée, de s'ériger en contre-pouvoir alors qu'ils sont illégitimes puisqu'ils ne procèdent pas de l'élection. Mais moi, je voudrais essayer de positiver un peu dans ce climat un peu déclinologue que connaît la France aujourd'hui, en disant que la République des juges, c'est le symbole de l'évolution des mentalités sur le rôle du juge, du pouvoir judiciaire dans la société actuelle et dans la démocratie. Et puis aussi, c'était peut-être le sens d'une des questions qui avait été posée tout à l'heure sur le deux poids deux mesures. Pourquoi est-ce que les politiques ont des juridictions à part alors que le citoyen, lui, est devant les tribunaux dits ordinaires? Je pense que le problème de la justice, c'est pas seulement un problème institutionnel, mais c'est la seule institution dont le nom renvoie à la fois à un organe, les institutions judiciaires, et à une valeur, la justice, qui n'est pas dans l'emblème de la République française, liberté, égalité, fraternité, mais qui est sous-jacente. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité non plus, et évidemment, la fraternité, c'est le sens même de la cohésion sociale. République des juges et séparation des pouvoirs. Pourquoi est-ce que ce sujet, qui paraîtrait peut-être, je ne sais pas si Pasquale Pasquino le dira, mais un sujet qui ne serait pas posé dans le cadre d'une université américaine, puisque ça va de soi. Pourquoi est-ce qu'en 2011, aujourd'hui en France, on s'interroge encore sur la place du juge dans un schéma institutionnel de séparation des pouvoirs, alors même que cette séparation des pouvoirs, elle a été affirmée dès le début de la Révolution, dès la déclaration de 1789, dont l'article 16 dit « Toute société dont la garantie des droits n'est pas assurée ou la séparation des pouvoirs non déterminée n'a point de constitution », c'est-à-dire n'est pas un état de droit. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Eh bien parce que, sans revenir sur ce qu'a indiqué tout à l'heure Jean-Marc Sauvé de l'histoire des épurations des juges et des institutions judiciaires au rythme des alternances politiques en France, c'est vrai que dans le cadre de la République, de la Ve République, le juge ne s'est pas vu reconnaître une place aussi élevée, aussi noble qu'elle a dans les autres démocraties. Je pense par exemple à l'Allemagne ou aux États-Unis. Après la guerre, tous les pays qui sortaient de régimes dictatoriaux, comme chez nous, je pense le régime de Vichy, c'était peut-être pas une dictature au sens strict du terme, c'était un régime liberticide. Pratiquement tous les pays européens qui sortaient de cette période ont créé une cour constitutionnelle, la cour italienne, la cour allemande, nous non. On a créé un comité consultatif constitutionnel dont personne n'a d'ailleurs jamais entendu parler puisqu'il n'a pratiquement pas exercé ses fonctions. En 58, le Conseil constitutionnel est un conseil et non pas une cour. C'est un organe politique qui vise à être un peu, si je puis dire, le gardien de ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé pour éviter que le Parlement n'empiète sur le pouvoir exécutif, c'était le rejet par le général de Gaulle du régime des partis, le général de Gaulle ayant dit d'ailleurs, dans une de ses interventions, en France, la Cour suprême, c'est moi. Par conséquent, pas de cour constitutionnelle encore en 58 et pas de cour constitutionnelle encore en 2011, puisque au cours des débats parlementaires sur la réforme constitutionnelle de 2008, il y a eu un amendement pour créer une cour et notamment intituler le Conseil constitutionnel comme une cour, ce qui, du point de vue international, était certainement une avancée qui était avantageuse pour notre pays. Eh bien non, on a maintenu ce terme de conseil parce qu'on craint la cour constitutionnelle, on craint le contre-pouvoir. Donc voilà le contexte général. Et malgré ce contexte, moi je considère que dans notre pays, en France, qui est une démocratie, c'est incontestable, c'était une démocratie sans état de droit, au sens de sans contrepoids et sans un pouvoir judiciaire qui vient contester le pouvoir politique, comme c'est le cas dans d'autres pays. Je sais qu'en ce moment, on discute beaucoup des démocraties sans état de droit ou des états de droit sans démocratie. Est-ce que, par exemple, Singapour, c'est un état de droit sans démocratie, comme on le dit, parce qu'il y a une justice qui fonctionne, mais il n'y a pas de liberté politique réelle. D'ailleurs, il n'y a pas de mouvement en vue de cette liberté politique. Chez nous, c'est vrai que cette démocratie, elle était un petit peu faible du côté d'un pouvoir judiciaire qui, d'ailleurs, dans la Constitution, Dominique Rousseau l'aura relevé, n'existe pas puisqu'on parle d'autorité judiciaire. Eh bien, l'évolution de la société française a fait que aujourd'hui, cette démocratie s'est ouverte sur l'état de droit, et j'en prendrai un seul exemple, c'est le contrôle de la loi. Le contrôle de la loi, non seulement par les juges nationaux, non seulement vis-à-vis de la Constitution, avec une évolution considérable dans la période récente, la question prioritaire de constitutionnalité qui fait que notre cour constitutionnelle n'est plus inaccessible aux citoyens, et puis aussi avec l'entrée en force de la justice internationale et de la justice européenne qui a complètement bouleversé la façon de concevoir le rôle du juge et du procès avec cette notion de procès équitable qui a été tout à l'heure illustrée par Jean-Marc Sauvé. Donc, une approche très positive, oui, république des juges, parce que le juge est dans la République, et dès qu'un pouvoir politique, je ne dis pas que les juges sont infaillibles, je ne dis pas de créer une infaillibilité, ils peuvent se tromper, ils sont indépendants, certains ne le sont pas, ils peuvent avoir des préjugés et imprimer ces préjugés dans le cadre des jugements qu'ils édictent, et puis aussi, ils peuvent être plus ou moins compétents. Donc la justice n'est pas une institution plus infaillible que les autres, mais néanmoins, un pouvoir qui n'accepte pas un juge indépendant est un pouvoir qui ne peut mériter le nom de pouvoir démocratique, c'est-à-dire qui n'a point de constitution. Alors je donne simplement quelques exemples. En Hongrie, récemment, la Cour constitutionnelle, qui a été créée un peu à l'image de la Cour allemande dans tous ces pays de l'Est, ils ont des cours constitutionnelles qui ont affirmé très tôt leurs compétences. En Hongrie, la Cour constitutionnelle a rendu des décisions qui n'ont pas plu au pouvoir politique. Le lendemain, le Premier ministre, M. Orban, qui dispose d'une majorité des deux tiers au Parlement, a fait voter une réforme constitutionnelle qui ampute de moitié les pouvoirs de la Cour constitutionnelle. En Pologne, en revanche, les jumeaux, qui prétendaient faire adopter, ou plutôt mettre en œuvre une loi d'épuration qui allait bien au-delà de l'épuration de ceux qui avaient trop approché la police politique polonaise du temps du régime soviétique. Cette loi d'épuration visait les avocats, les journalistes et les professeurs d'université. Eh bien, elle a été censurée par la Cour constitutionnelle. Donc, on voit bien que ces exemples... Plus récemment, M. Berlusconi a voulu aussi réduire, mais enfin, en ce moment, il n'en a plus la possibilité, les pouvoirs de la Cour constitutionnelle italienne. Donc, il est vrai que les relations entre la justice et la politique sont extrêmement difficiles à gérer, puisque le juge, en principe, ne fait pas de politique, mais chacun sait qu'à un certain niveau, les décisions du juge ont un impact politique, surtout quand c'est le juge du pouvoir et du pouvoir politique, et que par ailleurs, les juridictions sont porteuses d'une des valeurs essentielles de la vie en société, c'est-à-dire la justice, le sentiment de justice. Et à cet égard, je pense que En atténuant un petit peu la portée de la notion de république des juges, je crois qu'en France, il y a un problème, c'est que les citoyens, c'est que la justice n'est pas assez intégrée dans les valeurs citoyennes. En tous les cas, les citoyens n'adhèrent pas assez aux valeurs de l'institution judiciaire. Elle est trop méconnue. Et à cet égard, c'est peut-être une des fragilités de notre pays. Mais le vent de l'histoire va dans le sens d'une affirmation toujours plus grande et d'une autonomisation toujours plus grande du juge national, européen, voire même international. Merci.
Merci. Alors, je vais passer la parole maintenant pour un exercice du même ordre à Dominique Rousseau. Il est professeur à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, président du Conseil scientifique de l'Association française de droit constitutionnel. Donc, c'est un constitutionnaliste. Il a été professeur à l'Université de Montpellier. Il a été membre de l'Institut universitaire de France. Je cite un livre de lui, 2007, « La Ve République se meurt, vive la démocratie », aux éditions Odile Jacob. Voilà.
Politique où parce que les États généraux ne s'étaient plus réunis depuis 1614, les parlements de l'Ancien Régime, c'est-à-dire la magistrature, avaient progressivement acquis un droit de remontrance et un droit de bloquer les ordonnances royales. Alors, est-ce que vous voulez dire, par République des juges, que finalement nous sommes à nouveau en révolution ? Mais cette fois au sens géophysique du terme, c'est-à-dire on reviendrait à avant 1789 et les juges d'aujourd'hui seraient un petit peu les continuateurs sur la longue durée de Brodel, reviendraient après l'événement politique de quelques années, finalement 200 ans c'est pas long, reviendrait le pouvoir des juges. Donc votre formule République des juges, vous voyez, tout à fait paradoxale, ambiguë, un peu provocatrice, certainement polémique. Elle contient quand même une part de vérité, comme toute controverse. Elle contient une part de vérité en ce sens que tout le monde peut constater que le juge est aujourd'hui partout, aussi bien dans l'ordre interne, pour s'occuper de est-ce qu'il faut condamner l'euthanasie ou pas, est-ce qu'il faut permettre l'adoption pour les couples homosexuels ou pas, est-ce qu'il faut contrôler les plans de licenciement. Bref, on fait intervenir le juge dans tous les domaines. Et il est évidemment partout dans le droit international. Non seulement la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Luxembourg, mais la Cour pénale internationale. On parle même de la création d'une Cour internationale en matière d'environnement, en matière économique, pour remplacer le système actuel de l'OMC. Bref, il y a une montée en puissance, comme on dit, des juges, au point qu'un certain nombre d'intellectuels, de penseurs, considèrent que le malaise démocratique de notre société d'aujourd'hui vient de trop de juges. Je vous renvoie à quelques essais qui ont été publiés ces dernières années. Je pense à celui d'Alain Minc sur l'ivresse démocratique, qui note que la nouvelle trinité, médias, opinion et juges, ont remplacé l'ancienne et sont à la cause de la crise de la démocratie. Je vous renvoie également dans un autre registre un peu plus sérieux aux travaux de Marcel Gaucher sur l'événement de la démocratie. Marcel Gaucher considère aussi que la crise de la démocratie vient d'un excès de droit et que ce qui met en cause le fonctionnement des sociétés, dit Marcel Gaucher, c'est le risque de l'impouvoir, comme il l'appelle. Sans parler de la position du ministre de la Justice anglais qui vient d'envisager la possibilité d'une réforme de la Cour de Strasbourg parce que cette Cour a condamné la loi anglaise qui interdit aux prisonniers le droit de vote. Donc effectivement, on a ce sentiment que ce sont les juges qui font la République. Je voudrais simplement cet après-midi, donc en quelques mots, vous dire que je m'inscris radicalement en faux contre cette pensée unique et que je considère que la République n'est pas un danger mais une chance pour la République dans la mesure où la justice et les juges apportent quelque chose à notre société. Et ce qu'elle apporte, je peux le dire en plusieurs termes, je dirais ce qu'elle apporte, la justice, c'est la civilisation, au sens de Norbert Elias. Ce que la justice apporte, c'est l'alternative à la violence, pour citer Paul Ricoeur, dans la mesure où, en amont de tout procès, en amont de toute procédure, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la violence. Et par conséquent, l'horizon de tout acte du jugé est d'être une alternative à ces violences, sous toutes ses formes, et notamment la plus dure, qui est la vengeance. Et je vous rappellerai très simplement que le passage de la barbarie à la civilisation, finalement, se fait par le passage du lynchage à la justice. Donc, le marqueur du passage de la barbarie à la civilisation, c'est la justice. Et ce que la justice apporte à une société, c'est donc la mesure. Si j'ai un thème à faire passer, c'est cette idée-là. Ce que la justice apporte à une société, c'est la mesure. Et la mesure dans deux directions. La mesure dans l'exercice des pouvoirs et la mesure dans l'élaboration des règles. Dans l'exercice du pouvoir, on pourrait reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, mais là aussi, puisque le temps est compté, on est obligé d'être un peu caricatural, je vous avais prévenu. Dans le schéma constitutionnel classique, la mesure, parce que tout schéma constitutionnel recherche la mesure dans l'exercice du gouvernement, la mesure est recherchée par le risque, mais le risque institutionnel. Dans un régime parlementaire, par exemple, la mesure est recherchée par le fait que le président peut dissoudre, mais les députés peuvent renverser. Tu me renverses, je te dissous. Donc, on va vers le compromis. Et on cherche la mesure dans l'exercice du gouvernement. Dans un régime présidentiel, type États-Unis, regardez ce qui se passe avec le vote du budget, la mesure tient au fait que les deux pouvoirs, n'ayant pas de moyens de pression l'un contre l'autre, sont obligés d'aller au compromis, et donc à la mesure. Le problème, c'est que ce schéma constitutionnel est totalement périmé. Je ne vois pas pourquoi on parlait de Montesquieu tout à l'heure. C'est totalement périmé. Et ça, les juristes le savent, depuis au moins les enseignements du doyen Vedel en 1957 à Rome, lors du congrès de l'Association internationale de sciences politiques, où le doyen Vedel a dit, mais vous savez, désormais, il n'y a plus de séparation entre le législatif et l'exécutif. Ils sont soudés. Et ils sont soudés par la logique électorale, qui fait que, à nos grandes divisions, régime parlementaire, régime présidentiel, il y a en réalité trois lois constitutionnelles très simples. Un, gouverne celui qui a gagné les élections. Et celui qui a gagné les élections, il a et le législatif et l'exécutif. Deux, celui qui gouverne rend des comptes, non pas au Parlement, mais au peuple, au bout de 4 ou 5 ans, lors du renouvellement des élections. Donc la responsabilité, elle est devant le peuple, pas devant le Parlement. Et trois, entre deux moments électoraux, les libertés sont garanties par le juge. Par le juge. Et donc, dans le schéma aujourd'hui, dans le schéma constitutionnel moderne, le juge est celui qui assure la mesure dans l'exercice du pouvoir par un autre risque, qui est le risque de l'inconstitutionnalité. Et ce risque de l'inconstitutionnalité, il tient au fait que le juge, et notamment le juge constitutionnel, crée un écart, une distance entre le corps des représentants et le corps des représentés. Le corps des représentants fait la loi, le corps des représentés a la Constitution. Et il y a toujours un risque que la volonté du corps des représentés ne corresponde pas à ce qui est écrit dans la Constitution. Et ce risque permanent de désaccord possible entre l'expression de la volonté du corps des représentants et ce qui est écrit dans la Constitution et qui exprime le peuple souverain, est au principe d'un exercice mesuré du pouvoir. Un seul exemple qui est très significatif, c'est la circulaire qu'a rédigée Michel Rocard lorsqu'il a pris ses fonctions au mois de mai 1988, il prend ses fonctions, et la première chose qu'il fait, c'est de rédiger une circulaire en demandant à ses ministres d'être très attentifs, dit-il, à tous les risques d'inconstitutionnalité qui pourraient survenir dans toute proposition, projet ou amendement des lois et requêtes précises, même dans les hypothèses où la saisine du Conseil constitutionnel est improbable. Autrement dit, le risque d'inconstitutionnalité devient, comment dire, le gage, la garantie que les lois qui vont être votées, que l'exercice du pouvoir se fera de manière modérée, de manière mesurée. Je pense que le juge, dans ce nouvel équilibre des pouvoirs, où le Parlement ne peut plus être celui qui équilibre le législatif parce qu'il est soudé, le juge devient cette institution de la mesure dans l'exercice du pouvoir. Le deuxième élément de la mesure, c'est dans la fabrication de la loi. Le juge est une institution de mesure dans la fabrication de la loi. Alors c'est là que le terme république des juges peut effectivement prendre sa signification, c'est que aujourd'hui, le juge participe à la rédaction de la loi. C'est quelque chose qui pour nous est très étranger, quand je dis nous c'est en France, parce qu'on considère que lorsque la loi est votée, c'est fini et qu'il n'y a plus qu'à l'appliquer. Or, lorsque la loi est votée, je dirais, elle est simplement votée. C'est-à-dire, elle n'est pas finie, elle n'est pas achevée. Elle va être achevée lorsque le juge aura pris les mots de la loi et lui auront donné un sens, une signification. Ce que le Conseil constitutionnel dit, c'est-à-dire une portée effective, qui va permettre de déterminer les comportements des uns et des autres. Alors on peut prendre de multiples exemples dans l'actualité. Le délai de prescription des délits d'abus de biens sociaux, qui le dit? Qui dit que le point de départ, c'est le moment où ils sont découverts et pas le moment où ils sont commis? Pas le Parlement. C'est le juge. Qui dit que le Clémenceau est un déchet et pas un navire, contrairement à ce qu'on pourrait croire banalement? C'est le juge. Qui dit que les droits de la défense impliquent que les gardés à vue aient droit à un avocat et à l'assistance effective de l'avocat dès la première heure? C'est pas le Parlement, c'est le juge. Qui vont interpréter les droits de la défense comme disant ceci, mais c'est eux qui le disent. Donc effectivement, on pourrait dire qu'il y a république des juges, sauf que l'interprétation que font les juges du droit de la défense et d'autres exemples que je pourrais donner, ne sont jamais des interprétations qui sont le produit d'un geste unilatéral, discrétionnaire, arbitraire. Lorsque le juge donne une interprétation des mots de la loi, hein, puisqu'il faut bien distinguer les mots de la loi et la norme, et le passage de l'un à l'autre, c'est le travail du juge. Lorsque le juge fait ce travail, il le fait en tenant compte de tout le travail herméneutique qui a été fait auparavant au sein, alors au sein de quoi? Au sein des sociétés savantes, au sein des syndicats, des associations, des partis politiques, des assemblées parlementaires, des débats, des réseaux sociaux, bref. Le juge n'est qu'un élément de la chaîne argumentative, pour reprendre une image de Dworkin, qui conduit à ce qu'à un moment donné, le juge va sanctionner telle interprétation plutôt que telle autre. Et dans cet acte qui consiste à donner une densité normative aux mots de la loi, le juge apporte la mesure parce qu'il apporte, je crois, deux éléments, deux traits. Le premier, c'est la proximité. J'allais oublier que le juge est saisi par les justiciables d'un cas particulier et que le juge est par conséquent peut-être plus que le législateur au contact de la réalité quotidienne. Le législateur, il fait des lois, comme on dit, générales et impersonnelles, il y a pour tout le monde, alors que le juge, lui, est confronté à des cas particuliers. Et on est souvent surpris, nous, que le juge donne des réponses différentes, mais parce que précisément, les cas sont différents. Et vous regardez par exemple les jugements sur les jugements des tribunaux à l'égard de l'euthanasie active ou passive. Mais parce qu'en fonction des cas particuliers, là effectivement l'infirmière ou le médecin a été au-delà de ce que voulait la famille, alors que dans un autre cas, dans une autre vie, dans une autre situation, au contraire, tout a été fait comme il le fallait. Et que par conséquent, les magistrats, les juridictions sont en contact direct avec l'évolution des mœurs, l'évolution de la société. Je vous rappellerai simplement que l'IVG, c'est bien sûr la loi Veil, mais c'est d'abord les tribunaux, c'est d'abord Bobigny. C'est d'abord Bobigny. Le droit au logement a d'abord été reconnu par la Cour de cassation. Le statut des étrangers a d'abord été construit par le Conseil d'État. Autrement dit, et pourquoi ? Parce que les juges ont bien vu dans les années 70 que les femmes se faisaient avorter et qu'on ne pouvait plus continuer à qualifier l'avortement de crime. Et ils ont donc décriminalisé l'avortement avant que le Parlement intervienne 3 ans plus tard pour légaliser l'avortement. Donc le premier point qu'apporte la justice, c'est cet élément de proximité avec, je dirais, des problèmes de la vie quotidienne. Et la deuxième chose qu'apportent les juges et qui me paraît important et qui est un élément de la mesure dans l'élaboration des normes, c'est, je dirais, le temps long, la temporalité. Ce que le juge apporte, c'est, si vous voulez, une mise à distance entre le temps court de l'émotion, un meurtre aux 20 heures, le lendemain une loi. Le juge, lui, a... Et cette scène un peu de mise à distance en disant très bien, là vous avez vu un meurtre, vous voulez faire des peines rétroactives, mais il y a quand même dans la Constitution un principe de non-rétroactivité des voies pénales. Réfléchissons. Attendons. Donc dans une société qui est emportée par la vitesse et qui fait des lois à un rythme accéléré, la justice est ce moment précisément où on réfléchit sur le sens, la portée et la valeur des lois que l'émotion et le temps court conduisent parfois à poser. Tous ces éléments, à la fois parce que le juge est cette alternative à la violence, parce qu'il apporte la mesure dans l'exercice du pouvoir et dans la fabrication des lois, me conduit à considérer que si république des juges il y a, loin d'être contraire à la démocratie, elle favorise la démocratie qui doit être un exercice équilibré et mesuré des pouvoirs au bénéfice du vivre ensemble. Je vous remercie.
Alors, terminons ce tour de table avec Pasquale Pasquino, né en 48, et professeur de théorie politique et de droit constitutionnel à New York University et directeur de recherche au CNRS, formation de philosophe au départ, et puis ensuite il devient spécialiste des constitutions, des transformations institutionnelles de l'état de droit, du rôle croissant des organes non électifs, du contrôle de constitutionnalité. Il a publié un livre sur CIS et la naissance du constitutionnalisme en France chez Odile Jacob en 1998.
Merci de cette invitation. En fait, après les exposés de Pierre Rosanvallon et du président Sauvé ce matin, et puis les interventions de Noël Lenoir et de Dominique Rousseau, j'ai en réalité, sauf à rentrer dans des détails techniques qui ne nous intéressent pas ici. Je ferai donc, à ma manière, une sorte de résumé de ce qui a déjà été très bien dit, et je puis être très bref. Pour introduire notre discussion sur la République des juges, je vais vous parler, certes d'une manière un peu télégraphique, de ce que j'appelle la nouvelle séparation des pouvoirs. La théorie classique de la séparation des pouvoirs utilisait la structure de la constitution mixte, Rosa Vallon en a parlé ce matin, pour imaginer une forme de gouvernement antidespotique, capable de protéger la liberté des citoyens. Chez l'auteur de l'Esprit des lois, tel en tout cas qu'il a été lu et peut-être, comme on l'a écouté tout à l'heure, déformé vers la fin du XVIIIe siècle, il s'agissait de distribuer les pouvoirs et les fonctions de l'État entre différents organes qui correspondaient à différentes parties de la société. Le roi, c'est ce fameux modèle, cette icône de la Constitution d'Angleterre, les parties de la société étaient le roi, les lords et les représentants élus des communes. Considérer que sans le consentement de ces trois parties consubstantielles du Parlement anglais, aucune décision collective n'était possible. La Constitution de Philadelphie aux États-Unis avait essayé de transposer cette doctrine classique du gouvernement mixte dans un ordre républicain, je veux dire dans une société sans qualité, ou plus simplement, sans noblesse ni roi. Ceci était en un sens possible dans le cadre de l'Union américaine, qui était un système fédéral, où donc il y avait déjà une distribution des pouvoirs entre les États membres et l'Union au niveau central. J'attire votre attention sur la circonstance, comme nous le dit l'article 16 de la Déclaration des droits des hommes et du citoyen, qui est le texte le plus cité, comme vous avez vu dans cette journée, que la séparation des pouvoirs n'est pas un but. Ce n'est qu'un moyen de l'ingénierie constitutionnelle dont le but est la garantie des droits. Or, cette garantie des droits est, et j'insiste sur ce point, la seule justification rationnelle, depuis Thomas Hobbes, et je pourrais le démontrer si j'avais le temps, la seule justification rationnelle d'obéir aux lois positives, les commandements du pouvoir politique. Sans garantie des droits, l'obéissance au pouvoir politique est irrationnelle, n'a pas raison d'être. D'où le caractère capital de cette garantie des droits depuis la naissance de l'État moderne. Or, dans la démocratie telle qu'on la connaît, et surtout dans le système parlementaire et dans le semi-présidentialisme français, notamment depuis l'institution du quinquennat, comme le disait Dominique Rousseau, les organes du contre-pouvoir sont capturés par le même parti politique ou par la même coalition, car, disons, par le truchement des élections, dans un système parlementaire, l'exécutif et le législatif, c'est la même chose. Le gouvernement n'est pas le roi qui peut poser un veto à la volonté de l'Assemblée. Ce n'est que le comité qui exprime, disons, la majorité parlementaire. Donc, la conception classique de la séparation du pouvoir est mise à mal. Il n'y a donc plus de contre-pouvoir. Il n'y a pas un roi ou une chambre non élue, comme les lords anglais, qui peut contraster ou modérer le pouvoir des majorités élues. Or, et ça là aussi a été déjà dit, en réalité, une nouvelle séparation des pouvoirs s'est mise en place en Europe, je laisse de côté le cas américain, d'abord en Allemagne et en Italie après la Deuxième Guerre mondiale, et puis petit à petit dans les autres pays du continent, en soustrayant au contrôle direct des partis politiques une partie du pouvoir public. Les banques centrales indépendantes et les cours constitutionnelles sont les institutions centrales de cette nouvelle séparation des pouvoirs. Mais si j'avais le temps, je vous dirais aussi le rôle très important du Conseil d'État, notamment en France, dans cette forme politique qui est désormais celle de la démocratie constitutionnelle. Les premières, les banques centrales, doivent protéger l'épargne des citoyens. Les autres, les cours suprêmes, l'ordre constitutionnel et les droits fondamentaux des citoyens. Or, depuis Carl Schmitt et jusqu'à mon ami Michel Traubert, donc à droite comme à gauche, on a toujours objecté à ces institutions leur manque de légitimité démocratique. Elles ne sont pas élues et elles ne sont pas responsables devant le suffrage. Cette conception du pouvoir, que l'on peut qualifier de jacobine, assimile purement et simplement le peuple aux partis politiques. On peut certainement imaginer des formes de contrôle de type populaire sur le gouvernement et la majorité, tels les référendums abrogatifs qui existent dans le système constitutionnel italien. Mais il est évident que le contrôle populaire sur l'activité des majorités élues ne peut être qu'exceptionnel. Tout abus de l'appel au peuple risque de casser l'instrument du référendum populaire. Les cours constitutionnelles et administratives sont le seul instrument qui puisse permettre un contrôle continu sur les partis et les majorités parlementaires qui, de « agent », de « mandataire », se sont transformés petit à petit en « principal », un mandant du gouvernement représentatif. La France, à laquelle l'Europe doit la première constitution anti-despotique, celle de 1791, qui a commencé à être pensée dans cette salle, outre la Déclaration de l'homme et du citoyen, la France est arrivée plus tard que beaucoup d'autres pays à une forme organisée de cette nouvelle séparation des pouvoirs. De Gaulle s'était présenté après la guerre comme le contre-pouvoir charismatique vis-à-vis des partis. Et, ce qui a été évoqué plusieurs fois, l'ancienne hostilité de la France vis-à-vis de l'autorité judiciaire ont rétordi le processus. Mais d'abord, la réforme constitutionnelle de 1974 a permis à la minorité politique représentée au Parlement de faire appel à un tiers neutre vis-à-vis des abus du pouvoir du gouvernement. La nouvelle réforme entrée en vigueur l'année dernière permet, ce qui est beaucoup plus important à mon avis, aujourd'hui aux citoyens eux-mêmes de faire appel contre le législateur au Conseil constitutionnel, ce qui, après une longue histoire, réalise enfin la promesse d'une garantie des droits dont parlait à propos de la séparation des pouvoirs la Déclaration de 1789. La soi-disant République des juges n'est en réalité que la seule forme de gouvernement limité dans une République de citoyens qui ne soient plus des simples sujets, mais des acteurs propriétaires de leur constitution. Merci.
Bon, alors, je voudrais d'abord demander à ceux qui sont ici présents à côté de moi, s'ils ont une remarque ou un commentaire à faire sur l'intervention de l'un des, de leurs voisins.
Non, parce qu'il
y aura des questions. Attendez une seconde, hein. On va vous donner un micro. Un micro.
Voilà. Le micro arrive. Et la question aussi.
Merci. Madame, ne pensez-vous pas que pour avoir une séparation complète des pouvoirs, et en particulier entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, tel que nous l'avons en France maintenant, qu'il faudrait que le président de la République ne soit pas appelé à présider le Conseil
supérieur de la magistrature.
Le Haut Conseil de la magistrature, voilà le mot.
C'est le cas, non, Dominique ? Ben, c'est-à-dire que pour... Enfin, Dominique, tu as été membre, tu veux peut-être répondre.
Oui, ça pourrait vous poser... Je pourrais la poser à vous deux. J'avais déjà envie de la poser à M. Sauvé.
Vous avez, en tous les cas, vous avez tout à fait raison de considérer que, bien que les juges, même les juges, et pas seulement les magistrats du parquet, soient nommés formellement par décret du président de la République, le pouvoir politique, en tant que pouvoir politique, émanant d'une majorité politique, ne doit pas interférer dans la nomination des juges. Ça, c'est extrêmement important. C'est vrai que, peut-être, en tous les cas, pour la nomination des juges, le président de la République ne préside plus le CSM. De toute façon, même d'ailleurs, depuis peu de temps, le garde des Sceaux ne le préside plus. Mais c'est vrai que, alors que pendant des décennies, le président de la République avait suivi systématiquement les avis du Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination des magistrats, je crois que cette pratique a été rompue il y a quelques années, assez peu d'années. Peut-être Dominique, toi qui as l'expérience, mais d'accord sur le fond, bien entendu.
Oui, oui. Depuis la révision de 2008, le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. En revanche, il est toujours inscrit que le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Imaginez que dans la Constitution, par exemple, le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir législatif. Un peu surprenant. Là, on dit le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Le principe est maintenu, mais on lui a enlevé la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, en France, de temps en temps, on fait une grande révolution, hein, et puis après, ça bloque. Alors, le petit parle. Maintenant, il est plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne veut pas dire que le pouvoir exécutif n'a plus la main sur le pouvoir judiciaire et notamment sur le parquet.
Monsieur.
Bonjour. Ma question prolonge celle de l'intervenant précédent, vue sous un autre angle. Le Conseil supérieur de la magistrature, chargé, pour faire simple, je ne suis pas un professionnel, de contrôler le travail des juges...
Parlez plus près du micro, parce qu'on vous entend.
Excusez-moi. Ma question prolonge celle de l'intervenant précédent. Le Conseil supérieur de la magistrature, chargé, pour faire simple, de contrôler le travail des juges, est, sauf erreur, il y a eu des réformes, majoritairement ou très majoritairement composées de magistrats. De la même façon, les nombreuses commissions chargées de l'élaboration des lois sont largement contrôlées par les professionnels de la justice, juges, avocats ou professeurs de droit. Enfin, les avocats, et à mon avis de façon stupéfiante, les juges ou les anciens juges sont surreprésentés au Parlement sans que l'on se préoccupe d'introduire un principe de parité. Je dresse là un parallèle avec la parité homme-femme dont on nous parle depuis 10-15 ans. Est-ce que c'est fait? Il y en a d'autres. Ne sont pas contraires au principe de division...
Reprenez, on vous entend toujours mal. Hein. Ah. On a un très mauvais retour, hein, de toute manière, pour nous
excusez-moi.
Ici. Hein.
Donc, je reprends.
S'il faudrait que vous vous leviez et reprendre peut-être pas tout, mais...
Alors, je reprends au milieu. De la même façon, après le CSM, les nombreuses commissions chargées de l'élaboration des lois sont largement contrôlées par les professionnels de la justice, juges, avocats et professeurs de droit. Enfin, les avocats, et à mon avis de façon stupéfiante, les juges ou les anciens juges sont surreprésentés au Parlement sans que l'on se préoccupe d'introduire un principe de parité. Je dresse là un parallèle avec la parité homme-femme dont on parle depuis une quinzaine d'années. Est-ce que ces faits, il y en a d'autres, ne sont pas contraires au principe de division des pouvoirs et surtout à la démocratie? Vous me permettrez d'être un petit peu...
Attendez, ça va, là, on a compris, on va vous poser une réponse de Madame Lenoir.
Alors, la question ne porte pas sur la justice en tant que telle, mais sur la représentation des professions de droit, y inclut les juges, les profs de droit et les avocats, au Parlement. Alors, c'est vrai que sous la Troisième République, il y avait énormément d'avocats, et aujourd'hui, les avocats ne sont pas en majorité, sauf parce que certains politiques souhaitent être en même temps avocats. Il y a eu tout un débat sur de possibles conflits d'intérêts entre le parlementaire en exercice qui est en même temps avocat, quand il n'est pas avocat d'origine. Aujourd'hui, je crois que ce ne sont pas ni les avocats, ni les profs de droit, et même avec les juges, d'ailleurs... des juges, il y a Jean-Louis Debré qui a été magistrat il y a très longtemps, mais enfin qui est redevenu juge. Il y a Fenech qui a été juge. De toute façon, comme vous le savez, un parlementaire ne peut pas être magistrat en même temps. Il peut être avocat, il ne peut pas être magistrat. Et prof de droit, je ne pense pas que les professions de droit soient surreprésentées. Ce sont les hauts fonctionnaires, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de médecins. vétérinaires, parce que c'est vrai qu'on est proche, disons, de la population, des pharmaciens, professions de santé sont très représentées. On pourra vous donner peut-être les statistiques, mais en tous les cas, il n'y a pas une domination des professions de droit, même si le travail du législateur, j'ai travaillé dans une assemblée parlementaire dans ma jeunesse il y a quelques années, comme au Sénat, même si les parlementaires sont censés être des juristes, puisqu'en principe, c'est eux qui font la loi. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas une emprise des professions de droit ou des professions juridiques au Parlement. Il y en a certains, mais ils ne sont pas plus mauvais que les autres.
Une partie de votre question s'adresse aussi à M. Rousseau, notamment celle concernant la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, si vous ne l'aviez pas posée, j'aurais posé la question. Donc, c'est pour ça que je la relève volontiers.
Simplement, je crois que d'après ce qu'on a compris à peu près de votre question, parce que le son était mauvais, la question que vous posez, c'est la question du statut de l'élu. S'il y a beaucoup, voire trop de fonctionnaires à l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas suffisamment de femmes, c'est aussi, pas que, mais aussi lié à l'absence d'un statut de l'élu qui fait que c'est beaucoup plus difficile, par exemple, pour les professions libérales ou les chefs d'entreprise de se lancer dans une carrière politique dans la mesure où, s'ils sont battus aux élections, ils ont du mal à reprendre leur affaire, alors qu'un fonctionnaire, s'il est battu, il reprend son boulot. Donc, il y a un problème de statut de l'élu. Pour le reste, dans l'actuel Conseil supérieur de la magistrature, les non-magistrats sont majoritaires.
Et c'est nouveau.
Absolument.
Hein, c'est nouveau.
Les non-magistrats sont majoritaires. Et nous sommes le seul pays en France où les non-magistrats sont majoritaires, puisque le Conseil européen de la justice a adopté une charte qui demande à ce que les conseils supérieurs dans chaque pays de l'Union européenne soient composés à parité de magistrats et de non-magistrats. Nous, on a été plus loin ou plus près, ou si vous voulez, on a mis une majorité de non-magistrats majoritaires. Du temps où j'y étais, les non-magistrats étaient minoritaires. Je peux vous assurer, sans évidemment violer le secret des délibérations, que les votes, que ce soit pour la nomination du premier président de la Cour de cassation, des présidents de cour d'appel et la nomination des juges, ou que ce soit pour le disciplinaire, le vote ne passait pas entre les non-magistrats et les magistrats. Et que les magistrats étaient souvent beaucoup plus sévères à l'égard de leurs collègues que les non-magistrats. Donc l'histoire du corporatisme des magistrats qui se protègent eux-mêmes, moi, l'ayant vécu pendant 4 ans de l'intérieur, c'est bon pour les plateaux de télévision, mais dans la réalité concrète, je n'ai jamais pu l'observer.
Ici, oui, bien sûr.
Je voudrais demander à M. Dominique Rousseau si vous êtes amené à intervenir à l'école supérieure des magistrats et si les élèves de cette école sont conscients de leur rôle de contre-pouvoir qu'exercent actuellement les magistrats en poste. Ce serait intéressant pour eux, je pense, et pour l'avenir.
Je suis amené à intervenir à l'École nationale de la magistrature. Et mon expérience montre, si vous voulez, que j'ai vu en face de moi des magistrats tourmentés par l'exercice de leur métier. Moi, je me souviens avoir discuté très longuement avec Sainte-Rose, j'ai perdu son prénom, qui était avocat général dans l'affaire Perruche, par exemple. Il devait rendre son avis. Vous savez, c'est est-ce qu'on a l'indemnisation d'un enfant né handicapé. Bon. Et il fallait qu'il rende ses conclusions. Bon. Il était torturé. Il était torturé, mais il était pris entre si je dis oui à l'indemnisation, ça va soulager les parents, si les parents meurent et que va devenir cet enfant, etc. Donc ça serait plutôt bien que je dise oui, il faut l'indemniser. Mais en même temps, par rapport à toute la philosophie chrétienne, un enfant, si Dieu l'a voulu le faire comme ça, pourquoi on irait. Enfin bon. Et il était torturé. Et j'ai vu, alors ça c'est un exemple qui me revient parce que vous me posez la question, mais je pourrais vous multiplier les exemples que j'ai pu constater de magistrats qui, dans l'exercice de leur profession, ont bien conscience que leur décision va avoir une influence sur la vie de leurs concitoyens. Un juge, encore, si vous voulez, à qui accorder la garde d'un enfant, un divorce. Bon, faut pas croire qu'ils font ça comme ça, pile ou face. Bon, puis parfois ils se plantent. Parfois ils se plantent parce que, bon, ils ont été trop vite, ou ils étaient fatigués, ou le rapport de l'expert psy n'était pas. Enfin bref. Et je crois que les magistrats ont une haute conscience. Alors évidemment, vous avez toujours un ou deux, vous allez me trouver des cas bidalou. Bon, mais je crois que les magistrats, dans leur ensemble quand même, sont assez conscients des conséquences de l'exercice de leur pouvoir sur leurs concitoyens. Et alors, pour l'École nationale de la magistrature, par exemple, depuis, on est en 2011, depuis 3 ans, je crois, maintenant, il y a des cours de déontologie qui ont été introduits. Quand j'étais au Conseil supérieur de la magistrature, j'avais été chargé de rédiger le recueil de toutes les décisions disciplinaires, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, depuis 1958. Donc j'ai balayé toutes les décisions disciplinaires des magistrats. Et maintenant, donc, les magistrats ont à leur disposition ce recueil, et c'est à partir de ce recueil que se fait l'enseignement de la déontologie des magistrats.
Bien, on va s'en tenir là, et on va prendre 10 minutes, pas plus, de 10 minutes de coupure, parce que sinon ça sera vraiment trop serré, et on recommence à peu près. Alors, nous recommençons donc, et nous allons maintenant passer au dernier débat ou échange de la soirée, l'après-midi, les oligarchies et le capitalisme d'héritiers, avec trois intervenants, dont un qui est double, c'est un peu comme la Constitution.